Chapitre 5. Une victoire navale. Le docteur et l'amiral avaient pris l'habitude de se tenir compagnie dans leur promenade matinale entre le déjeuner et le lunch. Les gens qui habitaient sur les bords de ces routes ombragées d'arbres étaient accoutumés à voir nos deux personnages, le marin long, maigre, austère, et le médecin replé, affairé, dans son complet à carreaux, passer et repasser avec une régularité telle qu'on eût pu, en les voyant, remettre à l'heure une pendule arrêtée. L'amiral faisait deux pas quand son compagnon en faisait trois, mais le plus jeune avait des mouvements plus vifs et tous les deux faisaient sans peine leurs 4,5 milles à l'heure. Le lendemain des événements qu'on a racontés fut une belle journée d'été. Le ciel était d'un bleu foncé, semé de quelques flocons blancs de nuages qui le traversaient paresseusement. L'air était rempli du sourd bourdonnement des insectes, coupé soudain par une note aiguë lorsqu'une abeille, une grosse mouche, filait en émettant leur murmure vibrant, prolongé, pareil à un diapason d'insectes. Et quand les deux amis arrivaient au haut de chaque élévation, d'où s'aperçoit le palais de cristal, ils pouvaient voir les nuages bruns de Londres s'allonger sur l'horizon du nord et les clochers, les dômes, perçant la couche basse des brouillards. L'amiral était plein d'entrain, car le courrier du matin avait apporté de bonnes nouvelles à son fils. « C'est merveilleux, Walker, disait-il, c'est réellement merveilleux de voir comment mon garçon a marché de l'avant pendant ces trois dernières années. Nous avons eu aujourd'hui des nouvelles par personne. C'est le premier associé, vous savez, et mon garçon, le jeune associé. La raison sociale, c'est Pearson et Denver. » Et pourtant, il s'offre un congé de 15 jours en laissant les pleins pouvoirs à mon garçon, lui confiant toutes ses immenses affaires avec liberté entière, sans réserve. Voilà ce qui s'appelle de la confiance, et il n'est à la bourse que depuis 3 ans. Tout le monde pourrait avoir confiance en lui, sa physionomie est une garantie. Allez toujours, Walker, dit l'amiral en lui plantant son coude dans le côté. Vous connaissez mon point faible. Mais c'est tout de même la vérité. Le ciel m'a fait présent d'une excellente femme, d'un excellent fils, et peut-être que cela a pour moi d'autant plus de charme que j'en ai été éloigné plus longtemps. J'ai plus d'un motif de reconnaissance. Et moi aussi, les deux meilleures filles qui aient jamais été. Voilà Clara qui a appris assez de médecine pour obtenir son diplôme de la London Surgical Association, et cela simplement pour pouvoir s'associer d'une façon sympathique à mon travail. Mais attention, qu'est-ce qui vient ? À toute vitesse et le vent en poupe, s'écria l'amiral. 14 nœuds pour le moins, comment ? Mais par Georges, c'est cette femme. Un nuage mobile de poussière jaune était apparu au contour de la route, et de son centre avait émergé un motricycle en tandem lancé à une allure de casse-cou. En avant était assise Mistress Westmacott, en jaquette bruyère à pointillés, en jupon qui lui allait à peine aux genoux, et les jambes protégées par de fortes guêtres de la même étoffe. Elle avait sous le bras un gros paquet de feuilles rouges, tandis que Charles, qui, vêtu d'un complet en drap de Norfolk, avec culotte bouffante, occupait la place d'arrière, avait un paquet de même nature sortant de chaque poche. Au moment même où les deux amis regardèrent, le couple ralentit son allure, la dame descendit d'un bond, planta une de ses affiches sur la grille du jardin d'une maison inoccupée. Après quoi, elle se remit en selle d'un autre bond et se préparait à reprendre sa course quand son neveu appela son attention sur les deux gentlemen qui occupaient l'allée des piétons. « Oh non, vraiment, je ne vous avais pas remarqué !» dit-elle en donnant quelques tours de pédale et dirigeant la machine de leur côté. « N'est-ce pas une belle matinée ?»« Charmante, dit le docteur, vous avez l'air bien affairée. »« Je suis très affairée. » Et elle montra l'affiche de couleur que le vent agitait encore à la grille. « Nous avons poussé vivement notre propagande, comme vous voyez. Charles et moi, nous nous y employons depuis 7 heures. C'est à propos de notre réunion. » Je tiens à ce qu'elle soit un succès. Voyez. » Elle déploya l'une des affiches et le docteur y lut son propre nom, imprimé en gros caractères noirs. « Nous n'oublions pas notre président, comme vous voyez. Tout le monde y vient. Les deux bonnes vieilles filles d'en face, les demoiselles Williams, ont résisté quelque temps, mais maintenant j'ai leur promesse. Amiral, je suis sûre que vous nous souhaitez de réussir.
Je ne vous veux aucun mal, madame.
Vous ferez partie de notre bureau.
Je ferai? Non, je ne crois pas que j'aille jusque-là.
Vous viendrez au moins à notre réunion?
Non, madame, je ne sors pas après le dîner.
Oh, si, vous viendrez. J'irai vous voir si je puis et nous causerons de cela quand vous serez rentrée. Nous n'avons pas encore déjeuné. Bonjour. Les roues firent entendre un ronflement et le nuage jaune se remit en mouvement à la descente de la route. À quelques instants de là, l'amiral s'aperçut qu'il tenait serré dans sa main droite une des malencontreuses affiches. Il la froissa et la jeta sur le chemin.
« Si j'y vais, je veux être pendu, Walker, » dit-il quand ils reprirent leur promenade. « Jamais homme ou femme ne m'a fait faire quoi que ce soit en me bousculant. »
« Je ne suis pas amateur de Paris, » répondit le docteur, « mais je crois bien que les chances sont pour que vous y alliez. » L'amiral venait à peine de rentrer et de se mettre à table dans la salle à manger que l'attaque contre lui recommença. Il était en train de déployer lentement, affectueusement, le Times, dont la longue lecture lui servait à attendre le lunch, et il en était même à la phase qui consistait à fixer son pince-nez en or à cheval sur son nez aquilin et tranchant, quand il entendit craquer le gravier. Il regarda par-dessus son journal et vit Mrs. Westmacott arriver par l'allée du jardin. Elle portait encore ce costume singulier qui choquait les vieilles idées du marin sur la décence, mais il ne pouvait faire moins, en la regardant, que de la trouver fort belle femme. Dans bien des climats, il avait regardé des femmes de toutes les teintes, de tous les âges, mais il ne s'était jamais trouvé en présence d'une figure dont les traits fussent aussi nets, aussi beaux, d'une prestance si droite, si souple, si féminine. Il fit un effort pour ne point la contempler avec fixité et le froncement qui plissait son front ridé s'effaça. « Puis-je entrer ?» dit-elle, en s'encadrant dans la fenêtre ouverte sur un fond que formaient le vert de la pelouse et le bleu du ciel. « Je me sens comme l'envahisseur qui aurait poussé sa pointe très avant dans le territoire ennemi. »«
C'est une invasion très bienvenue, madame, » dit-il après s'être éclairci la voix et avoir ajusté son haut faux col.
« Essayez de cette chaise de jardin. Qu'est-ce que je puis faire pour vous? Faut-il sonner et faire savoir à Miss Denver que vous êtes ici ?»«
Je vous en prie, amiral, ne vous dérangez pas. Je suis simplement venu à propos de notre petite causerie de ce soir. Je désirerais que vous nous donniez votre puissant concours en venant à notre prochaine réunion pour l'amélioration de la condition de la femme. »«
Non, madame, je ne puis faire cela. » Et, se disant, il avança les lèvres et hocha sa tête grise.
« Et pourquoi donc ?»«
Contre mes principes, madame. »«
Mais pourquoi ?»«
Parce que la femme a ses devoirs et que l'homme a les siens. Il se peut que je sois vieille mode, mais c'est ma manière de voir. Et à quoi on en vient dans ce monde ? Pas plus tard qu'hier soir, je disais au docteur Walker que bientôt nous verrions la femme prétendre à commander la flotte de la Manche. »
C'est là une des professions, en petit nombre, qui ne sont point susceptibles de perfectionnement, dit Mrs. Westmacott avec son plus doux sourire. La pauvre femme doit encore compter sur la protection de l'homme.
Je n'aime pas ces nouvelles idées qui circulent, madame. Je vous dis franchement que je ne les aime pas. J'aime la discipline et je crois que tout le monde ne s'en trouve que mieux. La femme a obtenu bien des concessions qu'elle se serait vue refuser au temps de nos pères. Elle a des universités exprès pour elle, à ce qu'on m'a dit, et j'ai même appris qu'il y a des femmes médecins. Assurément, elles devraient se tenir pour satisfaites. Qu'est-ce qu'elles peuvent désirer de plus ?
Vous êtes un marin, et les marins sont toujours chevaleresques. Si vous pouviez voir les choses telles qu'elles sont, vous changeriez d'opinion. Qu'est-ce qu'elles feront, les pauvres créatures ? Elles sont en si grand nombre, et il y a si peu de travaux auxquels elles puissent se livrer. Gouvernante, mais les situations sont si rares. La musique, le dessin, il n'y en a pas une sur 50 qui ait des aptitudes spéciales dans ce genre. La médecine, elle est encore entourée de difficultés pour les femmes. Il faut plusieurs années et une petite fortune pour obtenir son diplôme. Le soin des malades, c'est un travail pénible et mal payé, et seules les constitutions les plus vigoureuses peuvent y résister. Que voulez-vous qu'elle fasse, amiral ? Qu'elle reste à crever de faim ?
Ta, ta, cela ne va pas jusque-là.
La concurrence est terrible. Faites insérer une annonce pour demander une dame de compagnie à 10 shillings par semaine, ce qui est inférieur au gage d'une cuisinière, et vous verrez combien il vous arrivera de réponses. Il n'y a pas d'espoir, pas de débouché pour ces milliers de femmes qui luttent. La vie est une bataille sombre, sordide, qui aboutit à une vieillesse sans joie. Et pourtant, quand nous nous efforçons d'y faire entrer un petit rayon d'espoir, une chance quelconque, si lointaine qu'elle soit, de quelque chose de meilleur, voilà de chevaleresques gentlemen qui nous disent qu'il est contre leur principe de nous aider. L'amiral était piqué, mais il secoua la tête pour marquer sa désapprobation. Il y a la banque, les tribunaux, la chirurgie vétérinaire, les bureaux du gouvernement, les emplois civils, voilà du moins autant de professions qu'on pourrait rendre librement accessibles aux femmes, du moment qu'elles ont assez d'intelligence pour concourir avec succès à les obtenir. Alors, si la femme échouait, ce serait par sa propre faute, et la partie la plus nombreuse de la population de ce pays n'aurait pas plus longtemps le droit de se plaindre qu'elle subit une loi différente de celle de la minorité, et qu'elle est maintenue par force dans la pauvreté et le servage, que toutes les routes qui mènent à l'indépendance lui sont fermées. Qu'est-ce que vous proposeriez de faire, madame ?
Ce serait de supprimer les injustices les plus évidentes et de préparer ainsi les voies à une réforme. Tenez, regardez cet homme qui travaille ce champ à la pioche. Je le connais, il ne sait ni lire ni écrire. Il est saturé de whisky et il a juste autant d'intelligence que les pommes de terre qu'il tire du sol. Et pourtant, cet homme-là est électeur. Il peut, dans certains cas, faire pencher la balance dans une élection et concourir indirectement au gouvernement de cet empire. À présent, prenons l'exemple le plus rapproché. Me voici, moi, une femme qui a reçu quelque éducation, qui a voyagé, qui a vu et étudié les institutions de bien des pays. J'ai une fortune immobilière considérable et je paie à l'Empire une plus forte somme en impôts que cet homme n'en dépense en whisky, et c'est beaucoup dire. Cependant, je n'ai pas plus d'influence directe sur l'emploi de l'argent que je paie que n'en a cette mouche qui se promène sur le mur. Est-ce juste? Est-ce loyal?
L'amiral s'agita sur sa chaise d'un air embarrassé.
Votre cas est une exception, dit-il.
Mais pas une femme ne vote. Considérez que les femmes forment la majorité de la nation. Et cependant, s'il surgissait une question de législation sur laquelle toutes les femmes seraient d'accord pour une solution, tandis que tous les hommes seraient unanimes pour le sens contraire, il arriverait certainement que cette question serait résolue à l'unanimité, alors que la majorité de la population y serait opposée. Est-ce que c'est juste ? Et l'amiral se tortillait de nouveau. La situation était bien embarrassante pour le galant marin. Il se trouvait aux prises avec une belle personne qui le bombardait de questions sans qu'il pût y trouver aucune réponse. Pouvait pas seulement mettre la main sur les tampons de ses canons. Ainsi qu'il expliqua ce soir-là au docteur. Et voici en réalité les points sur lesquels nous insisterons à la réunion. L'accès libre et complet aux professions, l'abolition définitive du Zenana,
c'est Rai Hindou.
C'est ainsi que je l'appelle, et le droit de vote à toutes les femmes qui paient les impôts de la reine au-dessus d'une certaine somme. Assurément, il n'y a rien de déraisonnable dans cela, rien qui doive choquer vos principes. Nous aurons la médecine, le barreau et l'église réunis ce soir pour la protection de la femme. La marine sera-t-elle la seule profession absente ?
L'amiral bondit de sa chaise en retenant avec peine un gros mot.
« Assez, madame, assez !» s'écria-t-il. « N'en parlez plus de quelque temps, j'en ai assez entendu. Vous m'aurez fait perdre le nord d'un point ou deux, je n'en disconviendrai pas. Mais tenons-nous-en là, j'y réfléchirai. »«
Certainement, amiral, nous ne voudrions pas vous arracher une décision, mais nous espérons encore vous voir à notre bureau. »
Elle se leva et fit quelques pas de cette allure balançante, masculine, qui lui était propre, examina les tableaux l'un après l'autre, car les murs disparaissaient presque sous les souvenirs qui rappelaient à l'amiral ses voyages. « Hola, dit-elle, voici un navire qui aurait certainement ployé toutes ses basses voiles et pris un ris de hunier s'il s'était trouvé avec le rivage à tribord et le vent en poupe. » Naturellement, il l'aurait fait. L'artiste n'est jamais allé plus loin que Gravesend, je le parierais. C'est la Pénélope, telle qu'elle était le 14 juin 1857, à l'entrée des détroits de Banca, avec l'île de Banca à tribord et Sumatra à l'avant. Il a fait ce tableau d'après une description. Mais bien entendu, comme vous le dites très sensément, tout était bien tranquille dans l'intérieur, quoique le navire fût gréé en tempête et eût pris deux ris dans ses huniers, car le vent soufflait en cyclone du sud-est. Je vous fais mes compliments, madame, mes compliments sincères. Oh, j'ai pas mal navigué moi-même. J'ai fait du matelotage autant qu'une femme peut en faire, vous savez. Voici la baie de Funchal. Quelle jolie frégate! Jolie, dites-vous? Ah oui, elle l'était. C'est l'Andromède. J'y étais aide sous-lieutenant, comme on dit aujourd'hui, bien que je préfère l'ancienne désignation. Quelle grâce dans les lancements de sa mâture, dans la courbe de ses bancs. Elle devait être un clipper. Le vieux marin, les yeux pétillants, se frottait les mains. Les navires d'autrefois tenaient une bonne place dans ses affections, à côté de sa femme et de son fils. « Je connais Funchal, dit la dame d'un ton dégagé. Il y a 2 ans, j'avais un yacht de 7 tonneaux, gréé en cutter, la Banshee, et nous fîmes la traversée de Falmouth à Madère. Vous, madame, avec un bateau de 7 tonneaux, avec 2 gars de Cornouailles comme équipage. Oh, ce fut superbe, une quinzaine en pleine mer, sans rien pour nous ennuyer, ni lettres, ni visites, ni pensées mesquines, rien que les grandes œuvres de Dieu, la mer agitée et le grand silence du ciel. On parle de l'équitation. Sans doute, j'aime le cheval, mais qu'est-ce, à côté de l'élan que prend une légère embarcation quand elle pique une tête le long du plan incliné d'une vague et qu'ensuite elle remonte, frissonnante, comme chassée par un ressort, comme la pente opposée. Oh, si nos âmes étaient sujettes à la transmigration, parmi les oiseaux qui volent, je voudrais être une mouette. Mais je vous retiens, amiral. Adieu. Le vieux marin était trop ému de sympathie pour répondre un mot. Tout ce qu'il put faire fut de serrer la main musculeuse, masculine, de Mistress Westmacott. Elle était déjà arrivée à la moitié de l'allée du jardin qu'elle s'entendit rappeler et vit la tête grisonnante, la figure hâlée, qui regardait derrière les rideaux. « Vous pouvez m'inscrire pour le bureau » cria-t-il. Puis, tout penaud, il se fit du numéro du Times un écran et ce fut ainsi que sa femme le trouva à l'heure du lunch. « Je vois que vous avez longuement causé avec Mistress Westmacott, dit-elle. « Oui, à mon avis, c'est une des femmes les plus sensées que j'ai rencontrées. « Excepté sur le chapitre des droits de la femme, naturellement. « Oh, je ne sais pas. Elle a bien des choses à dire pour son compte à ce sujet. « Le fait est, la mère, que j'ai pris l'engagement d'être au bureau à sa réunion. »